Chapitre 4. Brut. Là-bas, entre Josselin et Ploërmel, dans le département du Morbihan, les parents de Chrétien Joulou s'appelaient Monsieur le Comte et Madame la Comtesse Joulou Plesgouen du Bréhu. Ils avaient le premier banc fermé à la paroisse, à gauche du lutrin. Ils étaient nobles autant que le roi, mais moins riches que bien des bergères. C'étaient des gentilshommes de 1000 écus de rente. On en voit de plus pauvres encore en ces pays heureux, et ils roulaient carrosses non suspendus par les bas chemins de leurs anciens fiefs. Croyez-vous rire, la maison avait 6 domestiques et 3 chevaux, dont 2 borgnes. Le troisième, à la vérité, était aveugle. On donnait des bals et des retours de noces au château du Bréhu. Les 2 demoiselles ne se mariaient pas vite, mais c'est qu'on faisait beaucoup pour Chrétien qui était l'espoir de la maison. Les choses vont de mal en pis. Avec 1000 écus de rente, il y a 50 ans, on faisait claquer son fouet à volonté entre Ploërmel et Josselin, où est ce merveilleux palais des Rohans, prince de Léon, qui dépensait à Paris chaque année 150 000 pistoles. 1000 écus, vous n'avez aucune idée de ce que vaut un écu sur la lande. Seulement, monsieur le comte et madame la comtesse faisaient 1200 francs de pension à Joulou, l'héritier, l'espoir, le héros de la famille. Avec ses 1200 francs annuels, Chrétien Joulou devait devenir avocat, voire à gagner de l'argent. Gagner de l'argent, plaider, tomber avocat. Un Joulou Plesgouen du Bréhu, parent de Rohan et du Bon Côté, cousin de Rieux, neveu de Goulaine, allié au Fitzroy de Clare, car Joulou était tout cela abondamment, authentiquement. Plaider, gratter le papier, tondre la monnaie. Hélas, hélas, savez-vous où nous allons? Le comte et la comtesse, le bonhomme et la bonne femme, comme on les appelait, avaient bien réfléchi. Mais en 1832, sur la lande, les écus, les beaux et bons écus d'autrefois, avaient déjà bien perdu de leur patriarcale valeur. De 1000 écus, autant 1200 francs, restaient 600 écus pour le père, la mère, les 2 demoiselles, les 6 domestiques et les 3 chevaux. On se serrait un peu la ceinture. Mais que d'espérance, Joulou avocat! Il n'y a plus de saut métier. Que parlez-vous de déroger? Eh, les élections! Chrétien Joulou était un peu député par droit de naissance. Les maîtres de forge n'auraient pas beau jeu à lui dire à lui, un hobereau sans éducation. Sapre bleu, sans éducation, 1200 francs dans la capitale pendant 3 ans, 3600 francs de science, de bagout, d'aplomb, grâce aux maîtres de forge. Joulou avait un grand avenir. La plume a remplacé la lance. Ouvrez pour Joulou les 2 portes de l'arène moderne. Que disions-nous? 3600 francs et les 8 ans de collège à Vannes, à 700 francs par an, comptez, et les 1000 francs prodigués d'un coup au gaillard qui s'était déguisé en Joulou pour passer l'examen du baccalauréat, et les inscriptions de l'école de droit, religieusement bues par Joulou, et les examens dévorés, et tout l'argent envoyé en cachette par madame la comtesse. Taisez-vous, Joulou était un animal hors de prix, un baudet de 15 000 francs au bas mot. Pour 15 000 francs, on aurait pu marier les 2 demoiselles, acheter une ferme ou mettre à la tontine. Mais réflexion faite, on aimait mieux avoir Joulou, coûte que coûte, à cause de son avenir, et l'on avait bien raison, vous verrez. Il n'en était pas plus fier pour cela. Quand il revenait au château, il faisait l'amour à coups de poing avec les soubrettes en sabots et empruntait de l'argent à Yomik, le maître des études, qui avait, ma foi, 30 francs de gage, per annum. Mais voilà le revers de la médaille. Au bout de la 3e année de droit, Chrétien, qui devait revenir avocat, ne revint pas du tout. On apprit avec épouvante au château de Bréhu que les 15 000 francs étaient dévorés en pure perte. Joulou avait mené à Paris la vie de polichinelle. Il jouait bien la poule, c'était son seul talent. Il avait des dettes. La pauvre mère pleura toutes les larmes de son corps, les deux demoiselles roucoulèrent ce refrain de la femme, si terrible dans les familles, nous l'avions bien prédit, et le bonhomme, à qui on demandait de l'argent, envoya sa malédiction sans même payer le port. Telle était l'histoire de Chrétien Jouloux, la brute de cette éblouissante Marguerite. Nous ne donnons pas cette histoire pour nouvelle. Le Pays latin la tire tous les ans à plusieurs douzaines d'exemplaires. Un gai pays. C'est cette histoire-là qui fait des étudiants de 15e année une des classes sociales les plus utiles aux vaudevillistes. Quand le vaudeville la raconte, elle est à mourir de rire. Seulement, Jouloux ne ressemblait pas à tous les étudiants hors cours. C'était Jouloux le paysan, Jouloux le gentilhomme, Jouloux le lutteur des pardons de Bretagne, Jouloux le buveur de cidre et le galant à bras raccourcis. Il eût été bien couché dans la boue d'une ornière, il s'y fût endormi, ivre et idiot comme tant d'autres. Dans la boue de Paris, ces loups ne peuvent pas dormir. L'ivresse est là d'une autre sorte. Ils prennent la fièvre parfois et voient rouge. Chose étrange à dire, Jouloux avait gardé quelque part, sous son épaisse enveloppe, un vague ressouvenir de son sang et de son pays. On l'avait vu protéger le faible, par hasard, il ôtait son chapeau en passant devant les églises, et ses yeux se mouillaient à la pensée de sa mère. Ce loup, si quelque main vigoureuse l'eût pris au poil et tenu ferme, serait peut-être devenu un chien honnête, un chien de prix même, car il avait la race, mais il avait touché au couteau déjà pour un salaire puéril et burlesque. Il n'y eut pas touché pour un salaire sérieux en ce temps-là. Une nuit, pour un sang d'huître, et ce que peut contenir de truffe le ventre d'une poularde, Chrétien Jouloux Plesguen, vicomte du Bréhu, s'était battu, mieux qu'un lion, contre un enseigne de vaisseau en goguette à Paris. L'enseigne était breton comme lui, têtu comme lui, brave comme lui. L'arme choisie fut le poignard des officiers de marine. L'épée eût été trop longue. On s'aligna, en effet, pour employer la locution troupière, avidement adoptée par messieurs les étudiants, sur une table de marbre de cet estaminet tapageur qui déshonorait la place de l'école de médecine et que l'on appelait la taverne de 1830 à 1840. La table était juste assez large pour servir de piédestal à ce groupe de gladiateurs. Ce fut un duel célèbre et dont la justice se mêla, mais pas tant que la lithographie. Le marin finit par tomber, la poitrine trouée. On ferma la taverne. Jouloux se cacha chez Marguerite, ce fut son destin. Car il s'agissait de Marguerite. Le marin avait encouru les rancunes de Marguerite. C'était Marguerite qui avait promis le sang d'huître et les truffes. Chez Marguerite, Jouloux se laissa glisser au-dessous de son propre niveau. Il fut le domestique de Marguerite et son maître. Parlons de Marguerite. D'où venait-elle, cette Marguerite ? Bordeaux est une provenance célèbre dans l'univers entier. Marguerite se coiffait volontiers à la mode charmante des filles de Bordeaux. Elle nouait le madras avec une coquetterie suprême. Mais elle parlait, elle l'écrivait surtout autrement qu'une grisette bordelaise, et son talent sur le piano annonçait des études sérieuses. D'où venait-elle ? De Bordeaux, et aussi d'ailleurs. On voyage. Elle mentait quand elle se disait « fille de colonel ». Le lieutenant d'infanterie Sadoulas, un vieux brave qui avait conquis son épaulette lentement à la pointe du sabre, avait ramené d'Espagne en 1811 une verte aragonaise qui plaisait beaucoup au régiment. L'aragonaise était bonne personne, comme le sont généralement ses compatriotes. Depuis les sous-lieutenants, sortant de l'école militaire, jusqu'au gros major, homme sérieux et de poids, tout le monde avait à se louer d'elle. Aussi, le lieutenant Sadoulas l'épousa. Vers la fin de 1812, elle mit au monde une petite fille que le gros-major, son parrain, baptisa Marguerite Aimée. Le lieutenant Sadoulas mourut comme il put, ici ou là. Son aragonaise n'avait plus déjà le temps de s'en inquiéter. Elle tenait la maison du gros-major, retirée des affaires depuis 1812. Ce gros-major était un bon parrain. il mit sa filleule dans une de ces excellentes pensions qui croissent en pleine terre autour d'Écouen et de Villers-le-Bel pour rendre hommage à la mémoire de Madame Campan. Après quoi, l'Aragonaise et lui se brouillèrent. Il se maria, l'Aragonaise courut la prétentaine à l'heure et le malheur. Un matin du mois de mai 1827, le gros major et sa femme vinrent au pensionnat. Depuis 6 ans qu'ils étaient mariés, ils n'avaient point d'enfants, et le gros major, plaidant avec art diverses circonstances, son âge déjà mûr, celui de madame qui s'en allait mûrissant également, les déplaisirs de la solitude et autres, avait déterminé madame à adopter la jeune Marguerite aimée, qui donnait, au dire du brave militaire, les plus heureuses espérances. Il était en deçà de la vérité. Marguerite aimée faisait mieux que promettre. Le gros major apprit, en mettant le pied dans le parloir du pensionnat, que Marguerite aimée avait pris son vol, la veille au soir, avec un professeur de piano qui lui aussi promettait et tenait. Marguerite avait alors 15 ans. C'était un ange, au dire de la maîtresse du pensionnat, ni plus ni moins du reste que toutes ses autres élèves. On parla de pendre le professeur de piano. Les jeunes camarades de Marguerite, avec une sagesse au-dessus de leur âge, voyaient les choses plus froidement et confessaient, entre autres, que le professeur avait été enlevé par Marguerite. À bien réfléchir, c'est l'histoire de toutes les séductions. Je propose pour Don Juan, au lieu du châtiment épique rêvé par les poètes, un bonnet d'âne et le fouet. On est naïve à 15 ans. Marguerite, dès la première poste, demanda au professeur de piano s'il connaissait des princes russes. Et certes, ce n'était pas mal avisé, car j'ai vu des professeurs de piano qui gagnaient bien de l'argent à connaître des princes russes. À la seconde poste, les deux fugitifs se brouillèrent mortellement. À la troisième, Marguerite s'intéressa au conducteur, lequel faisait le commerce du gibier. Cela lui donnait d'éminentes relations. Après avoir fait la cour à Marguerite, pour un motif frivole, avec succès, il la confia au plus fort restaurateur de la place Saint-Martin, à Tours, en Touraine. Quelques lecteurs y réfléchis pourront trouver que ce n'était pas beaucoup la peine d'avoir quitté l'excellent pensionnat d'Écouen ou de Villers-le-Bel. Nous répondrons que presque toutes les fortes natures, armées en course et décidées à mener rondement la bataille de la vie, ont un plan préfixe. Ce plan a son revers. Marguerite était à cheval sur 2 idées. Le prince russe, qui pouvait aussi bien être un planteur américain, et l'homme qu'elle appelait, dans ses précoces calculs de stratégie, son premier mari. Elle n'avait pas peur de l'aventure, mais elle ne craignait pas la voie commune. Seulement, le prince russe et le premier mari apparaissaient tous deux à sa jeune imagination à l'état d'échelon ou de seuil pour monter, pour entrer. En se laissant jeter par-dessus bord, ce nigaud de séducteur, le maître de piano, n'avait pas fait une mauvaise affaire. La vie, la vraie vie de notre pensionnaire ne devait commencer qu'au lendemain de la banqueroute du prince russe, ou le premier jour de son veuvage. Jusque-là, elle était chrysalide et cachait sous son aisselle les plus longues ailes de papillon qui aient jamais porté une ancienne chenille dans les airs. Le traiteur était veuf, mais on ne fait pas de folie sur la place Saint-Martin à Tours. Le traiteur se moqua de notre belle Marguerite pour épouser une rentière blette qui lui apportait une inscription de 2 700 francs et un riche talent de comptable. Marguerite faisait son stage durement. La nouvelle épouse la mit à la porte. Elle tomba en proie à un commis voyageur qu'elle rongea jusqu'à l'os, mais il n'y avait que la peau. Paris serait la première ville de France si Bordeaux n'existait pas. C'est l'opinion des Bordelais. Marguerite vit Bordeaux. On y apprend beaucoup. C'est plein d'agents de change. Elle fut 2 ou 3 fois sur le point d'y trouver son prince russe ou son premier mari, mais elle était trop jeune, peut-être même trop belle. Cela nuit plus qu'on ne pense. Elle fut demoiselle de magasin. Elle tourna des quantités de têtes gasconnes sans honneur ni profit. Elle monta sur un théâtre où le prince russe, d'une poupée de carton, la fit siffler pour 100 écus. Elle donna des leçons de piano et fit peur aux instincts des mères. Elle fut institutrice. Partie gagnée, n'est-ce pas? Institutrice dans un premier cru de Médoc, 1400 francs la pièce. Ils sont marquis, ces vignerons. Ils sont bordelais, c'est-à-dire épicuriens, fleuris, chatouilleux, roués, naïfs. Partie gagnée. Non, Marguerite était trop jeune. Le site illustra son premier coup. Condé, enfant, écrivit le nom de Rocroi dans l'histoire, mais César attendit 33 ans. César est le plus grand des trois. Il faut attendre, il faut échouer, il faut souffrir. Je ne sais pas ce que Marguerite Sadoulas n'avait pas fait à 19 ans qu'elle l'avait, quand la diligence de Lyon la jeta, mal attifée, un peu malade, très découragée, mais miraculeusement belle, sur le pavé de la cour des messageries, rue Saint-Honoré à Paris. Elle n'avait réussi à rien, voilà la chose certaine. Sa beauté effrayait. Là-bas, sur les brasses du Bengale, où vont et viennent les princes russes de la mer, les navires corsaires, plus avisés que Marguerite, masquent le yade de leurs sabords et jettent avec soin la jolie ceinture de canon qui gagne leur vie. Paris est l'écueil, ou le port, selon le destin. Dès le premier pas, Marguerite y fit franchement naufrage. Celle-là ne pouvait jamais être ni heureuse, ni même se divertir, dans la joyeuse acceptation du mot. Elle n'aimait rien, ni le bien, ni le mal. Elle était cette terrible femme de bronze qui passe parmi nos rires comme l'arrière-pensée de la fatalité. Eh bien, Paris est si fort, si gai, il y a tant de montants. Il entoure d'un bras si chargé d'électricité le cou glacé de ses statues qu'on l'a vu les galvaniser un instant et les forcer à vivre. Pendant un an, Marguerite fut la reine du quartier latin. Elle rit, si elle n'aima pas, et même elle chancela une fois au bord de l'amour. La position de M. le vicomte Chrétien Joulou Plesguen Dubréhu dans la maison de Marguerite Sadoulas n'était pas du tout un mystère pour les habitués de la taverne. Il existe là-bas, parmi beaucoup de dévergondages, certains sentiments de fierté, et il ne faut pas oublier que cette taverne, ou ce qui la remplace de nos jours, est une sorte de creuset, chauffé diaboliquement, d'où sort, çà et là, une noble existence de magistrat, une pure renommée de grand médecin. Certes, il n'est pas nécessaire qu'un avocat illustre ou un éminent patricien ait passé à l'épreuve de ces fumeux purgatoires, mais beaucoup les ont traversés, beaucoup les traverseront. Il y a là un mystère de chimie morale qui a bien sa profondeur. À supposer que le proverbe soit vrai et qu'il faille que jeunesse se passe, ces officines incendiées à toute vapeur font passer vite la jeunesse. Les faibles y laissent des lambeaux de leur virilité, les forts en sortent intacts, nettement décatis et prêts à entrer de pied ferme dans le sérieux de la vie. On y rit de tout, voilà peut-être le mal. On y riait de la position de Joulou, tout le monde est ceux-là même qui n'eussent point voulu l'accepter. Le ridicule tue le bien, mais il sauve le mal. Le ridicule masquait ici la honte, Joulou faisait la cuisine et s'en vantait. Pour les faciles, c'était une bizarre, une burlesque facilité. Pour les austères, le nom de Joulou, la brute, couvrait toute chose d'un pitoyable voile. Il était pourtant chez Marguerite des visiteurs qui ne connaissaient point ce mystère domestique. Quand la sonnette tinta, quand cette voix jeune et sonore appela Marguerite sur le carré, Joulou devint pâle. Marguerite dit « C'est le beau Roland ». « Tu m'as promis de ne pas le recevoir, » murmura Joulou. « J'ai promis, » répéta Marguerite. « À qui ? J'étais seul, tu ne comptes pas. » « Et il y a des jours où il me semble que ce garçon-là est un prince déguisé. Non, je n'ai pas faim, va dîner tout seul. » Joulou ferma les poings. Au dehors, la voix impatiente cria « Marguerite, je mets le feu si on n'ouvre pas !» Ce n'était pas une plaisanterie, aussi Marguerite sourit. Elle poussa Joulou, qui gronda et disparut dans les trois couloirs. « Qui vous a donné le droit d'agir ainsi chez moi, monsieur Roland ?» demanda-t-elle en ouvrant elle-même la porte du carré. Il y avait bien un peu de théâtre dans la majesté de sa pose, mais son accent était vraiment d'une reine. Roland, devant elle, baissa les yeux comme un enfant. Certes, il ne menaçait plus. Une rougeur, pareille à celle qui naît du pudique embarras des jeunes filles, couvrait sa joue. « Si vous saviez ce qui m'est arrivé aujourd'hui, Marguerite, balbutia-t-il, et combien je suis malheureux !» Marguerite répondit, laissant tomber à la fois son royal accent et sa pose pompeuse, « Que voulez-vous que j'y fasse ?» De la cuisine, on entendait tout ce qui se disait sur le carré. Joulou décrocha le poulet qu'il avait éloigné du feu avant sa visite au salon. Il n'était pas maladroit pour un vicomte. Le poulet se trouvait parfaitement cuit et embaumait la cuisine exiguë. Les narines et les yeux de Joulou témoignaient sa vive satisfaction, tandis que ses sourcils froncés parlaient encore de jalouse rancune. « Bah, pensa-t-il, pourquoi se fâcher? Je ne sortirai pas d'ici pour entrer chez le roi. Ça me va, moi, cette vie-là. C'est drôle, cet artiste. Est-ce ma faute si j'ai des goûts au-dessus de mes rentes? Celui-là aura le sort des autres. Elle n'aime personne, excepté moi. » Il se frotta les mains après avoir déposé le poulet dans un plat abondamment ébréché. Roland était entré, cependant, et la porte extérieure avait été refermée au verrou. Joulou n'entendait plus qu'un murmure de voix du côté du salon. « Brut, grommela-t-il. Pas si brut. La vie d'étudiant, quoi. Le quartier latin. On se moque pas mal des rabat-joie. Elle n'a pas faim. Ah, je vais piquer un coup de fourchette, moi. À la papa. » Marguerite était assise sur son divan, et Roland s'agenouillait à ses pieds. « Ah, ce n'est pas de bon sens d'avoir des yeux pareils, murmura-t-elle. Je ne plaisante pas. Vous êtes bien trop beau pour un homme. C'est laid. » Ce n'est pas répondre, fit Roland, dont la voix tremblait. « Répondre à quoi? Toujours la même chanson? Je ne vous aime pas, vous savez bien, c'est entendu, c'est convenu. Je n'ai pas le cœur des autres femmes, je crois que je n'ai pas de cœur. » Roland la contemplait, fascinée. Tout en prononçant ces dures paroles, elle avait enlevé la toque du beau buridan et passé ses doigts doucement dans les larges boucles de sa chevelure. « Oh !» dit le grand enfant, radotant de bonne foi à ces lieux communs qui prennent une valeur en passant par la bouche des naïfs, et qui d'ailleurs convenaient si bien à son costume de comédie, « Ne blasphème pas, Marguerite, Dieu te punirait, tu aimerais sans espoir. »« Est-ce que nous nous tutoyons ? » demanda-t-elle en retirant sa main. Il rougit encore. « On est en carnaval, je vous pardonne, allez !» Ces quelques mots avaient été prononcés avec cette netteté légère et froide qui donnait à penser qu'elle avait pu s'asseoir parfois dans un vrai salon. Joulou, lui, était assis devant la table de la cuisine et découpait le poulet avec sensualité, membre à membre, pour faire du tout une jolie pyramide sur une assiette fendue. Marguerite jouait avec le chapelet de grosses perles qui ruisselaient sur sa poitrine éblouissante. Il y avait des instants où Roland éprouvait une douleur vive à la regarder. « Tout va bien, dit-elle après un silence. Si vous n'étiez pas fier et que vous fussiez pauvre, les tailleurs vous habilleraient pour rien. » Une larme roula dans les yeux de Roland. « Je suis fier, prononça-t-il en relevant la tête. Et vous n'êtes pas pauvre ? Si fait, je suis très pauvre. » Elle l'enveloppa d'un regard qui glissait comme un jet liquide et brillant à travers ses paupières demi-closes. « Si je pouvais aimer, pensa-t-elle tout haut, ce serait un homme pauvre et fier. » Elle se leva, déployant d'un haut le corps hardi toute la gracieuse splendeur de sa taille. « Mais, ajouta-t-elle, je sais bien que je ne peux pas aimer. » Et figurez-vous que les deux bouteilles de beaune conseillées par Joulou pour remplacer la bière étaient à la cuisine. Il les avait prises d'avance au crédit de la belle pécheresse au fond d'une de ces cornes d'abondance spéciales au pays latin et à la contrée Breda, le fameux épicier qui vend les truffes à 40 sous la livre. Oh jeunesse, âge noble et charmant, ô souriante poésie qui croit au champagne de Seltz à ses truffes et à ses amours. Le vicomte Joulou avait des illusions médiocres, mais son estomac était beau comme un regard de Marguerite. Il aimait le madère de la Villette sans y croire. nous espérons à la longue séduire complètement le lecteur par la peinture habilement réussie de ce grand caractère. Au moment où Joulou débouchait avec respect la première bouteille de Beaune pour la poser auprès de l'assiette où le poulet découpé formait une appétissante pyramide, le célèbre cœur des buveurs que la mode commençait à introduire dans tous les opéras envoya ses notes hurlantes à travers la fenêtre fermée. « Allons, chantons, trinquons, buvons !» Joulou aimait ce genre de vers qui n'a aucun des défauts de l'alexandrin fatigant. Il aimait aussi la musique quand on criait faux et fort. Il murmura avec un soupir d'envie « On osse à la tourdenelle, ah, c'est fichant de dîner tout seul !» Et machinalement, il ouvrit la croisée de la cuisine donnant sur le jardin d'une guinguette voisine et portant pour enseigne le titre de la pièce en vogue. « Allons, chantons, trinquons, buvons !» Toutes ces rimes ingénieuses entrèrent tumultueusement dans la cuisine avec d'autres qui n'étaient pas moins expressives. Flacons, lurons, bouchons, tendrons, bourgeons et chansons. Joulou en avait l'eau à la bouche. Il s'accouda sur la barre d'appui de la fenêtre et plongea un regard perçant à l'intérieur d'un salon, simple, austère et même crasseux, où une société faisait bombance. Il n'y avait que des hommes, et ils étaient tous en costume de bal masqué. Tiens, tiens, pensa Joulou, c'est l'étude de banc qui folichonne. Ohé, l'étude de banc, ohé! Ohé, fut-il répondu. Joulou, la brute! Nous grignotons nos sols parisis, messire. Il y a Philippe, Gautier, Landry, Orsini, le roi, le ministre, mais il manque Buridan et les dames. Jette-nous, Marguerite, et saute après elle, Ribaud! De l'autre côté de la cloison, les mains de Marguerite, plus blanches que les touches d'ivoire, couraient sur le clavier. Le piano chantait comme une âme. Roland écoutait en extase ces larmes perlées que pleure Desdémone et qui sont la romance du saule.